Il est positif d'abord concernant la croissance économique. Cette croissance produit des effets positifs sur tous les indicateurs économiques. Mais surtout, les fruits de la croissance sont répartis d'une façon qui tend à réduire les abyssales inégalités de répartition des richesses. Le Brésil est connu pour un des pays les plus inégaux au monde. Sous Lula, ces inégalités se sont réduites de façon significative. Ce sont des millions de Brésiliens qui ont quitté la pauvreté et également des millions de Brésiliens qui sont passés des couches populaires supérieures aux couches moyennes basses et qui ainsi ont un accès entier à la société de consommation. Et puis sur la scène internationale, le Brésil a énormément progressé.
Et qu'en est-il de la corruption en politique? On sait que c'est un problème qui est assez endémique.
Elle paraît très forte parce que la presse fait bien son travail et parce que les institutions fonctionnent. Les juges ne sont pas nécessairement aux ordres, de sorte que les enquêtes prospèrent et on peut voir apparaître des faits. La presse, qui est en concurrence avec d'autres médias, cherche toujours un scoop et fait de plus en plus un travail d'investigation. Le résultat combiné de tout cela, c'est que ça donne l'impression aux citoyens, mais aussi aux observateurs étrangers, que décidément le Brésil est un pays où il y a beaucoup de corruption. Je pense surtout que c'est un pays où la corruption est dénoncée. Et on en voit une des conséquences. Cette élection va se dérouler avec une règle nouvelle. Les hommes ou femmes politiques dont le casier judiciaire n'est pas vierge ou n'a pas été effacé, et ceux qui ont des problèmes avec la justice, sont interdits de candidature. Nous n'avons pas les mêmes exigences, par exemple, en France. De sorte que ce genre de mesure permet de trier, on va dire, entre le personnel politique corrompu et puis le personnel politique qui l'est peut-être ou qui ne l'est pas, en tout cas que la justice ne perçoit pas comme tel et qui, lui, peut participer des élections.
Quels sont les défis qui attendent le prochain président?
Les défis seront à peu près les mêmes que ceux de ce second mandat Lula, c'est-à-dire continuer à maintenir le pays dans la croissance et puis obtenir quelques résultats spectaculaires à l'international. Alors, dans le cadre de l'OMC, c'est évidemment obtenir la suppression des subventions directes et indirectes en matière d'agriculture. S'agissant de l'ONU, c'est obtenir un siège permanent dans un conseil de sécurité qui serait élargi et donc réformé. Mais il y aura un défi intérieur, satisfaire de nouvelles demandes sociales. La croissance importante est vécue comme un miracle par la population, est vécue comme « enfin, ça y est, nous devenons une puissance ». Sauf que ce miracle va finir par devenir banal. De sorte qu'il se créera alors un espace pour des revendications nouvelles et surtout un espace pour l'opposition du prochain chef de l'État, disant « avec moi, avec nous, ce serait encore mieux ». Autant Lula est actuellement extrêmement populaire, il l'a été tout au long de ce second mandat, aux alentours de 80% d'opinion positive, je ne crois pas que le prochain chef de l'État aura un tel soutien de la part de la population. Je crois au contraire que ce président aura des problèmes de popularité parce qu'on attendra de ce président d'autres miracles.